rawang tu jentreng jentreng. Cekeng sarangaheng, cenah jeng cenah sagareng.
Voilà, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Marius. Marius Morag, donc, qui est à l'antenne. Bonjour Marius.
Bonjour René.
Voilà,
merci
donc,
de m'avoir invité.
C'est un grand plaisir. En fait, j'ai vu votre livre, votre album qui vient de sortir. C'est un des 8 albums qui est en...
Enfin, en cours,
une
ouais.
série qui est en préparation, là.
Ouais.
Et le premier vient de sortir. On le trouvera bientôt un peu partout. Et donc, c'est un album magnifique. C'est pour ça que j'ai dit... Alors que ce n'est pas mon habitude forcément de prendre des gens qui viennent de loin comme ça dans cette émission. Mais ça vaut vraiment le coup de parler de cet album qui est un album de photographe et aussi de voyageur.
C'est ça. Merci beaucoup René. Ben, oui, c'est ça. C'est le premier, c'est Beyond Java. En fait, c'est mon livre. Le livre d'une longue série Beyond.
Oui.
Et voilà, j'ai commencé en fait avec ce livre. C'est un premier opus photographique, mais aussi pas seulement. C'est surtout des histoires derrière les visages que j'ai photographiés, des gens que j'ai rencontrés. Donc j'ai sillonné l'île de Java avec ma moto, ma propre moto. Je fais plus de 10 000 km depuis 2018. Et puis voilà, et Beyond Java est le fruit de tout ça. Donc c'est un mix bien particulier de rencontres avec les gens, mais aussi des scènes de vie, beaucoup de couleurs, des sourires, des personnes âgées qui vivent encore avec leur temps, qui adossent leur costume traditionnel, ainsi que les enfants et leurs sourires. Donc voilà, c'est un petit peu un mix, et c'est ce que vous disiez, et c'est une série photographique de 8 livres qui s'étendra pour les 10 prochaines années, puisque l'Indonésie, c'est un très très grand pays, le 4e pays le plus peuplé au monde, en fait.
Alors justement, c'est un pays qu'on connaît relativement mal, qui garde encore pas mal de mystères pour des gens qui connaissent peut-être plus la Chine ou d'autres pays comme ça.
C'est
Là,
ça.
On est encore dans un pays un peu plus complexe, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'îles. C'est pas, il
n'y
a pas un grand centre, où, voilà, il y a plein d'îles, et donc chaque album va traiter d'une partie de ce pays.
Exactement.
Cette constellation, on va dire, d'îles. C'est...
Exactement. Parce qu'en fait, l'Indonésie, c'est plus de 260 millions d'habitants. C'est plus de 17 000 îles. Alors, c'était très difficile de faire en fait un seul livre sur mon pays d'affection. C'est un pays que j'affectionne très particulièrement.
Mm-hmm.
Mais l'idée m'est venue en fait de me dire, ça serait mieux de faire en fait une série de livres plutôt que d'un seul livre, puisque chaque île a sa propre identité culturelle.
Mm-hmm.
Donc, j'ai commencé avec Java. Puisque j'habitais à Jakarta qui est la capitale d'Indonésie et qui est aussi sur Java. Donc j'ai fait de manière très simple, je ne me suis pas trop posé de questions. Cela m'a permis justement de photographier les gens, de vraiment m'intéresser à leur culture, mais pour chaque île. Et l'an prochain, je ferai de même pour Bali qui est évidemment très connu. S'il y a quelque chose que les gens connaissent, c'est beaucoup plus Bali que l'Indonésie en fait. Donc voilà.
Donc j'ai choisi un support musical qui est plutôt Java.
Oui, écoutez ça, ouais.
Il y en a d'autres qu'on passera peut-être la prochaine fois pour l'édition du deuxième volume, deuxième album, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qui vous a séduit là-bas? Parce qu'effectivement, quand on voit les photos, évidemment, c'est plus qu'intéressant, on va en parler après. Mais au départ, aller en Indonésie et avoir envie d'y vivre, qu'est-ce qui capte l'intérêt?
Disons que pour moi, c'est une formidable histoire, puisque la première fois que j'ai mis mes pieds en Indonésie, c'était en septembre 2015. J'étais qu'un baroudeur, donc je faisais que voyager dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. J'avais une sorte de liste de pays à visiter. Et justement, mon dernier pays de la liste, c'était l'Indonésie.
Mm-hmm.
Donc je suis arrivé et j'avais pas trop d'appréhension, pas beaucoup d'objectifs. Je voulais vraiment juste visiter. J'ai fait du volontariat. Et là, c'est là que j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont accueilli. On va dire qu'en Asie du Sud-Est, parce qu'on peut très bien parler de la Chine ou d'autres pays, les gens locaux sont extrêmement ouverts, sympathiques, ils sont très fort adorables. Mais c'est vrai qu'en Indonésie, pour moi, ça a été, on va dire, un petit peu plus. Et
mm-hmm.
c'est ce qui m'a permis de vraiment me faire sentir, comme je le dis toujours, de me faire sentir à la maison. C'est-à-dire que partout où j'allais, J'étais super bien invité. J'étais vraiment traité comme parmi des leurs. Donc cela m'a permis de beaucoup m'ouvrir avec eux. Et je pense que mon travail photographique traite aussi de cette ambiance. C'est-à-dire que j'essaye de percer leur intimité, d'aller vraiment au-delà de ce que les gens puissent faire avec des portraits. Donc j'essaie vraiment d'écouter leur histoire et de me poser et vraiment de communiquer avec eux, parce que c'est eux qui m'ont toujours fait sentir, ils m'ont toujours mis à l'aise avec leur discussion, avec leur façon de me parler, toutes les choses qu'ils m'ont données. Donc ce projet, c'est aussi un hommage pour le peuple, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pour l'Indonésie. C'est pas pour moi que je le fais, c'est vraiment pour eux. Et c'est une façon de les remercier. C'est comme ça que je suis débarqué à l'Indonésie. J'étais censé rester un mois au tout début. Et puis après, j'ai renouvelé mon titre de séjour. Et je suis resté. Et c'est un petit peu comme une drogue, mais une bonne addiction. Et voilà, cela m'a fait rester toujours davantage. Et j'ai fini par ne plus retourner en France et par m'installer à Jakarta. Donc voilà un petit peu l'histoire en gros. Comment ça s'est passé pour moi. Voilà. Avec surtout la gentillesse et la... Comment je pourrais dire ça, l'humanité, la chaleur des gens que j'ai vraiment perçu. C'est comme si pour moi, il y avait vraiment un vrai courant électrique et une affinité très spéciale qui est passée avec ce peuple. Un peuple qui est pour moi très curieux, plutôt extraverti. Curieux, mais à la fois extraverti, c'est-à-dire que s'ils sentent qu'on peut discuter, ils ne vont pas du tout hésiter à discuter. Mm-hmm. Surtout que maintenant, je parle indonésien, donc c'est forcément beaucoup plus facile à aborder les gens. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est un mini-mélo un petit peu, c'est comme une boule de neige qui s'est créée. Mmh. Et plus elle grossit, plus elle est puissante. Et aujourd'hui, il y a une relation très puissante qui lie en fait ce pays et moi. Donc voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a des paysages évidemment magnifiques et surprenants. Et puis il a ces photographies, donc ces portraits, on peut dire quand même des portraits, ou des portraits de groupe parfois, qui mettent les gens dans des situations... peut-être un peu traditionnel.
C'est ça. Les gens sont... disons que dans mon livre, ce que je traite surtout, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est les portraits des enfants et des personnes âgées. Mmh. Je m'intéresse surtout aux extrêmes. Et les gens me demandent toujours pourquoi ces deux types de démographie. Je leur réponds toujours parce que pour moi, ça me permet de beaucoup mieux représenter les émotions. C'est-à-dire que pour les enfants... Ce qui m'a le plus frappé, surtout lorsque je suis arrivé en Indonésie, c'est toujours leur joie de vivre, leur énergie, leur sourire. J'étais toujours entouré, toujours entouré par eux. Alors que les personnes âgées, c'est forcément un traitement beaucoup plus différent. Lorsqu'on veut faire une photo, par exemple, il faut y aller avec douceur. Il faut toujours les considérer. C'est-à-dire que ça demande initialement d'avoir, on va dire, une certaine connaissance de la culture. On peut pas, voilà, il faut toujours montrer qu'on a beaucoup de respect envers les personnes âgées, en Asie en général et encore plus en Indonésie. Mmh, et c'est ça justement qui me plaît, c'est cette diversité culturelle, mais aussi cette connexion intergénérationnelle, parce que pour moi ça me permet de beaucoup mieux représenter le pays en général et de montrer à la fois le futur pour les enfants, l'énergie, le potentiel qu'ils peuvent avoir. Et à la fois les personnes âgées qui, elles, sont ancrées dans leur temps, leur culture, et qui portent aussi beaucoup de vêtements colorés. Donc l'Indonésie, c'est tout ça, en fait. Voilà. C'est surtout les habitants, et c'est ce que je dis à tout le monde. J'ai dit l'Indonésie ne serait pas un pays aussi magnifique si ce n'était pas pour les habitants qui y vivent. Donc voilà.
Donc, Marius Morag, cet album, donc Beyond Java, hein, c'est une sélection de parmi 40 000 photos. Donc, comment on choisit celles qu'on met dans un album? Parce que j'imagine qu'on les aime presque toutes. Il faut faire des choix.
Ça a été extrêmement difficile pour, évidemment, choisir les photos. C'est une très bonne question. Ça m'a pris plus de 2 mois juste pour faire le tri de toutes mes photos. Donc, il a fallu... Vraiment s'organiser. Déjà, rien que le choix de la couverture, ça a été vraiment un cauchemar, puisque c'est vrai que la couverture doit être vraiment symbolique du pays, mais aussi de l'île en question, en particulier lorsqu'on commence à faire une série. Et ce que je voulais surtout, c'était vraiment sélectionner des portraits qui étaient à la fois révélateurs d'un caractère bien particulier, bien singulier, c'est-à-dire les rencontres qui m'ont le plus marqué. C'est ce qui m'a vraiment... permis de choisir, on va dire, un petit peu plus facilement. Mais surtout, je voulais aussi beaucoup de couleurs et de montrer autant de costumes que possible. Parce que j'ai travaillé en collaboration avec le ministère du Tourisme de l'Indonésie. Donc, mon projet, il a deux buts. Le premier, c'est de promouvoir le tourisme, puisque j'ai fait cette collaboration avec eux. Mais surtout, le second, c'est de préserver son héritage, un héritage qui, malheureusement, est en train de se perdre. C'est-à-dire que j'ai porté surtout mon choix pour des gens qui portaient encore leur costume traditionnel, pour des gens qui souriaient. Je me suis mis quelques adjectifs dans la tête, et ces adjectifs étaient synonymes de ce que, pour moi, représentait l'Indonésie. C'était des mots-clés. Et parmi eux, il y avait sourire, couleur, gaieté, ambition, culture, tradition. Voilà. Ça n'a pas du tout été facile. Bon, après, sur les 40 000, évidemment, il y a des fois des doublons, puisqu'il y a des photos ratées, tout ça. Donc, on en élimine aussi rapidement. Mais parmi le livre, puisqu'il y en a il y en a 150 à peu près.
Oui, quand même.
C'est un choix très difficile de garder. De garder le livre aussi compact que possible, mais à la fois complet, puisque je voulais pas qu'il y ait des répétitions, que les gens pensent que ça soit un petit peu que l'on se perde à le livre, ou qu'on commence à s'enlacer. Je voulais vraiment essayer de garder une dynamique à travers les chapitres. Et puis voilà, ça a été mon procédé de sélection. Donc, alors, pas facile du tout.
Un deuxième phénomène aussi, quand on sélectionne, ça veut dire on revoit tout ce qu'on a pris comme photo, et là, il y a la vie qui revient, quoi.
Exactement. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que sur chaque photo, évidemment, je peux pas raconter l'histoire derrière chaque photo dans mon livre. Mais comme c'est moi qui les ai prises, naturellement, c'est vrai que dès que je revois une photo, c'est comme si la photo me retransportait directement dans le moment où je l'avais prise. Et il y en a qui m'ont fait sourire, il y en a d'autres où j'ai eu un petit peu pitié parce que c'était des personnes âgées qui travaillaient dans les champs. C'était toujours des rencontres pleines d'âmes, avec un très beau message en fait. Mais pour prendre celle qui était le plus révélatrice de l'âme de l'Indonésie, ça a été difficile. Et dans le livre aussi, il y a quatre histoires que je marque. C'est-à-dire que je prends une histoire depuis chaque chapitre et j'essaye de justement rentrer en profondeur et de raconter l'histoire derrière l'image. C'est très souvent une image qui m'a beaucoup parlé en tant qu'explorateur photographe. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que mon choix s'est porté aussi de compter un petit peu plus en détail certaines images plus que d'autres, avec justement un message de l'humanité à faire passer derrière. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qui surprend, qui étonne et peut-être qui attire d'ailleurs quand on est européen, qu'on voyage et qu'on arrive en Indonésie? Qu'est-ce qui reste à la fin du voyage, même si on y retourne, hein, mais qu'est-ce qui paraît caractéristique aussi de ce pays qui vous a passionné, attiré?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que pour moi, ce qui m'a le plus marqué en Indonésie, surtout à mes débuts, même encore aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant, c'est-à-dire que je suis conscient et lucide de toutes les qualités que ce pays a pu me donner. Mais c'est vrai que la première chose qu'on remarque, c'est, je dirais, peut-être le respect que les gens ont entre eux. C'est-à-dire qu'on remarque un décalage plutôt notable entre les enfants. Naturellement, les enfants aujourd'hui, ils sont de plus en plus touchés par la technologie. Je ne vais pas trop aborder ce sujet-là. J'ai mes propres opinions. Et on remarque à la fois aussi un fossé qui est créé avec les personnes âgées, des personnes âgées qui, elles, comme je le disais, vivent avec leur temps, leur culture, elles vivent avec leur passé. Et ça, en fait, c'est vraiment... ça pourrait être en fait une différence, mais le motto de l'Indonésie, c'est l'unité dans la diversité, et ça permet justement d'unir le peuple. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait un décalage, un fossé, il y a quand même un respect qui est créé. Les enfants, par exemple, ont toujours beaucoup de respect pour les personnes âgées. Et même moi, en tant qu'étranger, j'adore en fait montrer que j'ai beaucoup de respect parce que cela me permet de me fondre beaucoup plus facilement dans le pays. Donc la première chose qu'on remarque, c'est surtout le respect, la convivialité, la chaleur, toute cette diversité, mais qui en même temps en fait n'est qu'une unité, puisque c'est un petit peu le motto de l'Indonésie, c'est ce que je disais, c'est leur devise. Et ça m'a profondément marqué, c'est-à-dire que partout où j'allais, dans 5 minutes, je pouvais vraiment me faire de vrais amis, voilà, garder contact avec eux et les considérer presque comme des frères et des sœurs. Et partout où j'allais. Il y a une vraie solidarité dans la campagne, même dans la capitale. Même la capitale, c'est différent. Mais ce qu'on remarque surtout en Indonésie, c'est une solidarité. C'est-à-dire qu'on est accueilli vraiment et on est très bien accueilli en tant qu'étranger. Après, moi, je vois ce pays depuis mes propres yeux. Naturellement, je ne peux pas le voir depuis un Indonésien. Mais pour moi, ce pays m'a beaucoup marqué avec tout cela. Cette complicité, cette solidarité, cette connexion, cette intimité qui peut être créée très rapidement et peut-être plus rapidement que dans les autres pays que j'avais visités avant. Mmh.
Donc, pour visiter et photographier hein, une île, bon là, on parle de Java.
Hein. Ouais.
Qu'est-ce qui est préférable, aller à pied, aller en moto? Comment vous allez gérer?
Alors, moi, j'ai utilisé la moto, c'est sûr. Parce que j'adore un petit peu, je suis vraiment baroudeur et j'adore prendre les choses telles qu'elles sont. Pour moi, la moto, ça m'a permis vraiment de voyager déjà en plein air. Ça paraît pas, mais on a toujours un degré d'attention différent lorsqu'on voyage en transport. C'est-à-dire que ça peut être avec une voiture ou une moto, mais je peux vous garantir que l'expérience finale sera toujours un petit peu changée. C'est-à-dire que ça sera jamais la même. Et à moto, cela m'a permis d'aller vraiment partout, de me perdre hein, littéralement dans Java. J'ai arpenté même des toutes petites routes impossibles à prendre. Ça me plaît parce qu'en fait, ça me permet au final d'aller là où personne ne va et ça me permet d'obtenir des résultats que personne n'a eu. Et c'est ça qui fait la grande différence. Donc, à la fois la moto, marcher, beaucoup marcher pour ma part. Et vraiment, c'était une histoire d'aventure entre rien que moi et ma moto, pour être très honnête avec vous, hein, sur des 1000 km dans Java.
Alors, vrai que quand on parle de ces aventures à des Français, par exemple, ils nous disent, quand je vais en Chine, où j'ai un peu la même impression, ils nous disent « tu n'as pas peur de te perdre ». Or, finalement, se perdre, c'est sans doute la meilleure occasion de la rencontre.
Exactement. C'est-à-dire que les gens pensent que l'on se perd. Moi, je dirais pas vraiment comme ça. Je suis parti de mon pays, pas pour me chercher, mais pour me trouver. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Et on s'en aperçoit encore une fois de plus lorsqu'on commence à voyager, ça peut être une île ou la Chine ou peu importe. En fait, c'est que même lorsqu'on voyage tout seul et que l'on se perd, on n'est jamais vraiment tout seul et on se perd vraiment jamais. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à mettre un pied à terre, on arrive vraiment à être un petit peu plus proche avec une humanité qu'on n'arrivait peut-être plus à voir. On arrive à être immergé dans un paysage qu'on n'a jamais été. Et tout ce genre de choses, en fait. Et c'est un millimélo qui nous permet de, pour ma part en tout cas, qui me permet de me faire sentir vraiment en vie. Voilà, les rencontres que j'ai faites ont été juste extraordinaires. Donc on n'est jamais tout seul, en fait. On voyage toujours avec quelqu'un. Et je dis toujours, mon livre, s'il est aujourd'hui ici, c'est vraiment grâce au peuple. Tout entier de Java, c'est tous ceux qui m'ont accueilli, tous ceux qui m'ont mis à confiance. Une île qui, d'ailleurs, n'est pas du tout dangereuse, c'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais senti en danger n'importe où dans l'île, à n'importe quelle heure. Bon, après, j'avais mon propre rythme de voyage, je voyageais surtout le matin parce qu'il faisait un petit peu plus frais, mais toujours, partout où j'allais, c'était toujours... C'était seul, mais je faisais toujours des belles rencontres à la fin, et ça me permettait de créer des petites familles. Des connexions ici et là. Et aujourd'hui, dans Java, bah, je peux aller presque où je veux. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé en plus une grande connexion, une belle intimité avec mes modèles que j'ai rencontrés, puisque je fais toujours en sorte d'insister sur une connexion, une communication avec eux. Et c'est ça qui est très beau. C'est pas la magie de faire des photos, c'est vraiment la magie de créer des connexions humaines et même de revoir ces gens pour savoir ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment... C'est ce que je dis, l'Indonésie, c'est vraiment un pays tellement magnifique. Tous les gens qui y sont ont une histoire à raconter. Ce n'est pas des gens que l'on va aborder tel des animaux dans un zoo. C'est des gens qui ont une histoire, une particularité. Il faut essayer de creuser avec eux. C'est ça qui fait la différence. Non, même lorsqu'on est seul après, on se rend curieux en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est seul, personne ne veut être seul. On veut toujours essayer de tisser des liens forts avec les gens qui nous entourent. Donc d'une part, moi, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus à eux, et d'autre part, de confirmer que ce peuple était vraiment, comme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire très ouvert, charmant, et surtout, voilà, qui n'avait pas du tout de problème de communiquer avec moi. Même si je parle indonésien, je ne parlais pas les dialectes, mais on a toujours réussi à se comprendre, et surtout, je me suis toujours senti... parmi les leurs, et ça c'est très important.
Alors, quand on arrive sans avoir prévenu dans un endroit, est-ce que le fait d'avoir un appareil photo, ça change un peu la donne?
Ah oui, un petit peu. Un petit peu, surtout dans les endroits les plus perdus. Alors, c'est vrai que, justement, je me forçais d'aller dans les villages les plus perdus pour voir leur réaction, puisque les locaux n'avaient jamais vu, n'avaient jamais vu un monsieur comme moi. Alors, ma stratégie, c'est surtout de toujours faire en sorte de cacher l'appareil photo. J'aime pas le mettre comme ça, j'aime pas le montrer ou qu'il soit trop tape à l'œil. Je fais toujours en sorte qu'il soit caché pour justement débarquer dans le village. Je pose ma moto et je débarque dans le village. Alors au tout début, c'est vrai que, bon, déjà il fait très chaud, mais il y a toujours des gosses dans la rue, enfin des gosses qui jouent dehors. Alors ils sont un petit peu, je dirais pas effrayés, mais surpris. Ils se demandent vraiment ma présence, qu'est-ce que je fais ici? Et puis après, bon, ben, ils voient que je commence à rester, donc ils se disent, bon, ben, peut-être qu'on devrait, je sais pas, enfin, moi, en tout cas, je fais toujours en sorte de jouer avec eux ou de m'inclure. Et vous pouvez être sûr qu'après 5 ou 10 minutes à peine dans le village, vous allez avoir tous les enfants autour de vous, surtout lorsque vous commencez à leur parler indonésien. Cela permet de les mettre vraiment en sécurité et surtout en confiance avec eux. Et puis voilà, mais tout ça, je le fais sans appareil photo. Je montre l'appareil photo uniquement bien après, une fois qu'une connexion est créée. Parce que si je fais un appareil photo... Enfin, pour moi, l'appareil photo, pour être très franc avec vous, ça fait un petit peu trop le côté touriste et ce genre de choses. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'ai rien contre le tourisme de masse et tout. Mais je pense que pour moi, je me vois beaucoup plus dans une vision d'explorateur, quelqu'un qui aime comprendre la culture d'un peuple à l'intérieur, plutôt que... De m'imposer une sorte de barrière invisible, telle une vitrine, avec un appareil photo, faire mes photos et partir.
C'est-à-dire que voilà, pour donc, moi, ce que je la photographie, c'est prendre la mémoire d'une rencontre.
C'est ça, c'est la mémoire d'une rencontre. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a parlé. Lors de ma sélection, j'arrive à me replonger quasiment instantanément dans ma rencontre. C'est-à-dire les rencontres qui m'ont le plus marqué sont très spéciales pour moi. Pour moi, la photographie, c'est un moment que l'on souhaite capturer. Comment dire, c'est une sensation que l'on souhaite établir, une connexion, une énergie que l'on souhaite retranscrire avec l'écriture de la lumière. C'est vraiment la définition propre de la photographie. Mais lorsqu'il s'agit de portrait, il faut vraiment qu'il y ait une intimité qui soit liée et une connexion qui soit créée. C'est ça qui est le plus important.
Voilà.
C'est ce que j'essaye de représenter dans Beyond Java.
Très bien. Marius Morak, donc, cet album, on va rappeler son nom.
Oui. Beyond Java.
Voilà, Beyond Java.
Beyond Java, le premier.
Et donc, est-ce qu'on peut le trouver actuellement?
Alors, actuellement, il n'est que sur mon site internet.
D'accord.
C'est-à-dire que mon site internet, c'est mon projet documentaire qui s'appelle Imperfect Frame.
Attends, on va essayer de l'appeler. Alors, Imperfect, c'est facile. Hein.
Imperfect, frame. C'est en anglais, c'est d'accord. Imparfait. Et Frame, c'est voilà, frame.com.
Voilà.
Donc, que sur mon site internet pour l'instant. Et on essaie de le distribuer, de le diffuser en France très prochainement.
Voilà. Est-ce qu'éventuellement, il y aura une présentation qui pourrait être faite en région après, dans des lieux culturels?
Alors, je suis en train de travailler dessus. Une présentation telle que quoi? Une dédicace, vous voulez dire?
Il y a parfois des forums où on présente un photographe, voilà. Oui,
oui, ben pour l'instant, je suis vraiment en train de réfléchir.
Oui.
Je suis en train de...
Avec des dédicaces, etc. Oui,
ouais, avec le Covid et tout, c'est pas facile, mais...
D'accord.
Mais voilà, je prévois d'avoir une expo à Paris aussi l'an prochain.
Oui.
Ça ira mieux, avec l'ambassade d'Indonésie
bien
à Paris.
Sûr. Oui, très bien.
Et aussi une expo après, enfin, à Jakarta. Mais pour l'instant, je me focalise sur la France. Donc pour les événements, ce n'est pas encore très défini. J'essaie justement d'y travailler dessus. C'est toujours compliqué.
Est-ce qu'il existe à Paris un centre culturel de l'Indonésie?
Alors, ça, pas du tout.
Non.
On vient de créer, enfin, la directrice de l'Office de tourisme à Paris, d'Indonésie, vient de créer la Maison d'Indonésie.
D'accord.
Ce sera un lieu qui regroupe toute la culture indonésienne. Un très beau lieu, d'ailleurs, qui est en train d'être créé, mais on ne trouve pas vraiment de... c'est ça, en fait. C'est qu'au final, on ne trouve pas encore trop de matière concernant ce pays qui est vraiment oublié.
Bah, qui est à découvrir.
Exactement.
C'est le but de cet ouvrage et de la suite à venir avec ces 8 albums qui vont être produits et publiés. Un grand merci, Marius Morak. C'est un grand bonheur de vous accueillir dans cette émission.
De rien. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, René, en tout cas, de m'avoir parmi vous et de pouvoir présenter mon ouvrage et mes sentiments en tant que photographe. Ça m'a fait très plaisir.
Très bonne journée.
Merci à vous, René. À
bientôt. domani, ujung dari.